Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à Winterthur et on va parler un petit peu de l'OMS et des accords qui sont en route. Alors, vous vous souvenez, en mars 2020, les populations du monde entier ont été la victime d'un fake. PHEIC, un Public Health Emergency of International Concern. Prise en otage par un fake, qui en fait était bien un fake, F-A-K-E. Un virus dont le taux de mortalité est plus faible qu'une grippe. Alerte de l'OMS, déclaration de pandémie. Et notre quotidien a basculé, non à cause du virus, mais à cause des mesures qui ont été prises pour lutter contre celui-ci. Des mesures qui ont gravement attenté aux libertés fondamentales des citoyens, allant même jusqu'à la discrimination, voire l'exclusion, sans parler de la paupérisation de la population, des faillites, des problèmes psychologiques graves. Ces mesures ont été dévastatrices. Mais en fait, de qui émanaient ces mesures? Pas de nos gouvernements. Aucun des plans pandémie nationaux n'ont été appliqués. Strictement aucun, et la Suisse n'y a pas échappé. On a pu constater un alignement pratiquement parfait des politiques de santé dans toute l'Europe, à l'exception de la Suède, et même du monde entier, et qui était basé seulement et uniquement sur les recommandations de l'OMS. À aucun moment, il n'y a eu une reconsidération de l'intérêt et de l'efficacité des mesures prises à l'encontre des populations. On a appliqué les mesures préconisées par l'OMS, donc du haut vers le bas, sans jamais remettre en question en fonction de leur efficacité. On est entré en religion, en oubliant tout esprit scientifique, sans réévaluation régulière des critères, sans le débat et le doute qui permettent de progresser dans la connaissance. Les mesures, qui n'étaient que des recommandations prônées par l'OMS, ont été strictement appliquées par les autorités sans que jamais leur efficacité ne soit analysée. Aucun débat n'a eu lieu. Pire, plus aucune question sur l'opportunité ou l'efficacité de ces mesures n'avait droit de citer. Celui qui osait même poser une question se voyait malmené. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui avec cette censure qui persiste. Impossible de remettre en question les recommandations de l'OMS. Que fait-on de la liberté d'expression? Existe-t-elle encore? Et puis, en novembre 2021, M. Alain Berset, ministre de la Santé suisse, a ouvert une session spéciale de l'Assemblée mondiale de la santé et a appelé à la communauté internationale à trouver un accord pour remédier aux lacunes du dispositif contre la lutte des pandémies. Il a émis le souhait qu'un nouvel accord soit conclu et qu'il soit juridiquement contraignant. Il a également répété l'importance d'une OMS forte au centre de la gouvernance mondiale de la santé. Alors il convient de se poser les bonnes questions. Pourquoi appeler à un nouvel accord en 2021 en pleine pandémie, alors qu'à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas fait le bilan de cette pandémie, alors que ce n'est que depuis le 5 mai dernier que l'OMS a enfin officiellement déclaré la fin de la pandémie. Alors pourquoi cette précipitation a entraîné les États dans des accords juridiquement contraignants? Pourquoi vouloir mettre l'OMS au centre de la gouvernance mondiale de la santé? Quand on constate les dégâts des simples recommandations, il y a vraiment de quoi paniquer quant à un passage à des accords contraignants. Oui, tremblons. Aujourd'hui, l'OMS, sous couvert de son concept One Health, une seule santé uniforme et internationale, et qui veut inclure les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, tout cela au nom de la santé. Ce qui nous amène sur les deux accords qui font parler d'eux, car oui, il y en a deux. Le règlement sanitaire international, qui a d'ailleurs subi une grande refonte en 2005, et le tout nouvel accord, le traité pandémie. Toute l'attention est tournée vers la révision de ce fameux accord, mais aussi de son complément sous forme d'un traité pandémique qui qui reprend nombre des dispositions du RSI, mais encore amplifie et donne à l'OMS une police visant à contraindre les États qui se déroberaient à leur politique. Ces deux accords, le traité pandémique et le règlement sanitaire international, se chevauchent largement sans que pour autant il y ait une vraie synchronisation ni une quelconque transparence. Imaginez, ce ne sont pas moins de 300 articles du règlement sanitaire international qui font l'objet d'une refonte. La particularité de cette refonte réside en deux points majeurs. Le premier constitue une atteinte massive à la souveraineté, donc à l'autodétermination des États. Et la seconde, une atteinte massive aux libertés publiques et personnelles, ainsi qu'aux droits de l'homme. Mais en quoi est-ce une atteinte à la souveraineté des États ? Eh bien, les amendements proposés au règlement sanitaire international auraient pour effet de modifier la nature générale de l'OMS, qui passerait d'une organisation consultative à une organisation qui ne ferait plus seulement des recommandations, mais qui serait des proclamations juridiquement contraignantes pour les États membres, donc pour la Suisse. En clair, le directeur général de l'OMS aurait l'opportunité de déclarer des états d'urgence, alors sur la base d'un comité qu'il pourra choisir lui-même, ou alors tout seul. D'ailleurs, on l'a déjà vu avec la variole du singe qui a été annoncée comme urgence. Alors, les mesures pourraient être appliquées directement depuis l'OMS et carrément depuis le directeur général de l'OMS. Évidemment, il est bien commode de pouvoir déclarer à son gré l'état d'urgence et d'être le seul maître des mesures qui peuvent être prises. Mais c'est surtout une atteinte à la démocratie, les États membres étant contraints d'appliquer ces mesures. Et comme le disait le juriste Carl Schmitt, le pouvoir appartient à celui qui peut déclarer l'état d'urgence. Jusqu'à maintenant, en Suisse, ce pouvoir appartient au gouvernement. Et d'ailleurs, il lui est dévolu par la Constitution. Dans l'hypothèse d'une acceptation de la révision du règlement sanitaire international, la Confédération se verrait amputée de facto de ce droit et donc de sa souveraineté, puisqu'elle n'aurait plus d'autodétermination. Et la Constitution prévoit clairement que le seul souverain, c'est le peuple. Le peuple se verrait donc déchu de cette prérogative au profit de l'OMS, soit d'une gouvernance mondiale. Ainsi, l'OMS pourrait passer par-dessus la tête de l'État suisse et pourrait imposer aux citoyens helvétiques des règles pour lesquelles ils n'ont jamais été consultés, ni eux, ni même le Parlement qui les représente. Actuellement, avec la révision de 2005, l'OMS possède déjà des pouvoirs assez étendus en matière de santé, de prévention, d'entrée et de sortie des territoires en cas de pandémie. Ces attributions s'étendraient encore. Les amendements au règlement international conféreront à l'OMS des pouvoirs juridiquement contraignants pour appeler des urgences sanitaires internationales réelles ou même potentielles et imposer des vaccinations expérimentale, on l'a déjà vu, pour les populations du monde entier, faire respecter ces mandats, et même si les pays ou leurs populations les refusaient. Les passeports vaccinaux seront introduits, liés à une identité numérique, permettant la surveillance de tous les aspects du comportement humain. Le désir de l'OMS est également d'étendre ses compétences au-delà de la santé, comme je vous l'ai déjà dit, dans les domaines tels que le climat, la santé animale, le CO2, les guerres. En fait, c'est une prise de pouvoir globale avec la mise en place d'une gouvernance mondiale. Aujourd'hui, l'OMS, sous couvert de son concept One Health, la santé pour tous, qui ne pourrait pas être d'accord avec ça, veut inclure les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes. Donc, tous les risques pour l'humain, l'animal, l'environnement seront inclus dans la notion de fake. Avec en prime, bien sûr, un système de surveillance. Concernant le traité, celui-ci donne à l'OMS la capacité de mettre carrément un pays hors du monde en l'isolant, de prendre le contrôle des populations, de financer Big Pharma et tous ceux qui seront partie prenante pour son financement par les États membres, jusqu'à présent dépendant de leur capacité économique, et qui devra être de 5% au moins du budget de la santé des États, à charge bien évidemment des contribuables. On en vient donc tout naturellement au financement de l'OMS. Comment le budget de l'OMS est-il composé ? Eh bien, il est composé de deux sortes de contributions, les contributions obligatoires et les contributions volontaires. Les contributions obligatoires sont celles qui émanent des États membres sur la base de leur capacité économique. Par exemple, les États-Unis et la Chine sont de gros contributeurs. Ils ont donc une influence évidente sur les prises de décision. La deuxième source de financement sont les contributions volontaires versées à la discrétion des États ainsi que par des donateurs privés. Depuis 2007, le budget général se compose d'environ 20% de contributions obligatoires, donc par les États membres, et de 80% de contributions volontaires. Donc il est très important de bien faire la distinction entre ces deux sortes de contributions. Celles qui sont versées par les États membres sont gérées de manière autonome par l'Assemblée mondiale de la santé, donc des 196 États qui le forment. Par contre, celles qui sont versées par des donateurs privés, c'est tout à fait différent. Celles-ci sont utilisées conformément à la volonté du donateur. Et c'est ça qui est très préoccupant. Parce que c'est une part toujours plus importante du financement par des fondations dites philanthropiques, telles que Bill et Melinda Gates, la fondation, ou Gavi, ou encore des pharma. On comprend donc fort bien l'influence que celles-ci ont sur le travail de l'organisation et les inévitables conflits d'intérêts, surtout si ces privés se révèlent être des entreprises ou fondations œuvrant dans des domaines pharmaceutiques. À la lumière de ces indications, on comprend qu'indéniablement la prise de décision n'est plus en les seules mains des États membres, comme c'était le cas au début, mais également fortement influencée par le secteur privé, par le levier financier d'une part, et par d'autres ressorts tels que le contrôle des médias, le lobbying auprès des gouvernements et des institutions. Ce ne sont plus les États membres qui prennent seuls les décisions, mais un groupe de privés non élus démocratiquement qui n'ont donc aucune légitimité à le faire. Cela signifie très concrètement que ce sont des privés, comme je vous ai dit, Bill et Melinda Gates Foundation ou Gavi ou des entreprises pharmaceutiques, qui prendront des décisions importantes sur la vie quotidienne des individus et sur les libertés de ceux-ci, alors même qu'ils n'ont pas été élus. On ne peut plus guère parler de démocratie. Ce traité et les modifications du règlement sanitaire international représentent une perte d'autonomie du monde politique qui va se retrouver sous la tutelle des grands groupes qui eux-mêmes détiennent l'OMS. La part de financement assumée par ces organismes extra-gouvernementaux qui ont des intérêts directs dans la promotion et l'utilisation des médicaments et des vaccins fait que l'OMS n'a plus l'indépendance nécessaire pour défendre la santé de la population et ne peut que se ranger dans la défense des intérêts de ses financeurs. Ce ne sera plus l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Organisation mondiale du business de la santé qui aura le plein pouvoir sur les États et donc sur la population mondiale. Avons-nous envie de nous laisser diriger par des entités économiques dont l'objectif est le profit et non le bien commun et qui n'ont de surcroît aucune légitimité? C'est absolument contraire à l'état de droit. Comprenons bien que ces deux accords, tant le règlement sanitaire international et le nouveau traité pandémique, se chevauchent largement. Mais le règlement sanitaire international pourrait être appliqué directement aux individus suite à son acceptation à la majorité simple des États membres et sans ratification par les parlements. Les États disposent ensuite d'un délai de 10 mois pour se rétracter. En mai 2024 se tiendra à Genève l'Assemblée générale annuelle de l'OMS et ses modifications seront mises au vote. Il y a donc urgence à réagir contre ces accords qui précipiteront la Suisse, mais aussi tous les autres États membres qui consentiront à une soumission à l'OMS qui, vous l'avez bien compris, est pétrie de conflits d'intérêts et qui n'est pas là pour promouvoir la santé, mais pour permettre à des entités privées, aux intentions plus que douteuses, de s'enrichir sur le dos des populations réduites à sa merci. L'heure est grave, on constate une accélération de ce processus de mainmise mondiale par le truchement de différents organismes internationaux tels que d'ailleurs le World Economic Forum. L'OMS pourtant reste la grande prêtresse dans ce nouvel ordre mondial perverti dont la cible de prédilection reste nos enfants, avec notamment la sexualisation de ceux-ci dès leur plus jeune âge. Tout cela, bien évidemment, sous couvert de santé et d'intégration. Il faut maintenant faire vite pour éviter le pire et mettre un coup d'arrêt définitif à l'emprise de l'OMS. Nous devons absolument rendre les populations et leurs politiques attentifs à la mise en place d'une gouvernance mondiale sous tutelle de l'OMS. La souveraineté des peuples, c'est dire stop à la tutelle de l'OMS. WHO signifie « We hurt others ». Merci beaucoup.